L'écoféminisme, c'est une bonne question. Parce que je considère que le féminisme, c'est la plus grande des batailles à mener. Toutes les autres discriminations et minorités seront embarquées et on aura enfin un rapport d'égalité entre nous tous sur cette planète.
Bonjour à toutes et à tous, quel bonheur et surtout en ce 546e numéro de Zoom Zoom Zen, quel soulagement de vous accueillir pour zoomer aujourd'hui sur un concept qui fait l'objet d'une guerre interne, une guerre de tranchées depuis 3 ans. D'un côté, la jeune et fougueuse Manon Mariani, dont la détermination à imposer ce sujet sur l'écoféminisme n'est pas sans rappeler celle de Jeanne d'Arc lors du siège de Poitiers, sauf évidemment qu'elle, personne ne songerait à la surnommer la pucelle. De l'autre, celui qu'on surnomme ici l'ancêtre, car il a connu les vraies tranchées, celles de Verdun, où la légende dit qu'il a asphyxié un bataillon entier de casques à pointe grâce à sa fameuse technique secrète de la bombe sale, qu'il a pu réaliser grâce à une livraison inespérée de chili con carne. Aujourd'hui, Cyril Lacarrière, notre rédacteur en chef, se bat toujours, même au sein de cette émission, pour une certaine idée de la France. Et cette idée n'inclut ni le féminisme, ni l'écologie. Voilà pourquoi, depuis 3 ans, il répond non à chaque fois que Manon remet le sujet de l'écoféminisme sur la table. 3 ans de cris, de peur, de portes qui claquent. Mais toutes les guerres ont une fin. Et la semaine dernière, usé par l'obstination marianesque, affaibli aussi, il faut bien le dire, par le poids des ans, Cyril a agité le drapeau blanc. « Je me rends, Marianoche, fais ce que tu veux de cette émission !» Au début, Manon, qui connaît le loustique, a cru une ruse. Elle restait sur le qui-vive, se disant qu'il allait certainement tenter un truc. Peut-être, qui sait, recourir encore à sa fameuse technique qui avait failli asphyxier l'open space en mai 2023. Quentin en fait encore des cauchemars.
Oui.
Mais non, devant l'enthousiasme de Manon pour ce sujet de l'écoféminisme, Cyril déposait bel et bien les armes. Et quand Manon a donc écrit fièrement sur le tableau de programmation lundi 19 mai, écoféminisme, Cyril n'a eu que 4 mots, empruntés à son penseur préféré, « Je hais ce siècle ». Zoom Zoom Zen, c'est parti.
France Inter, Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël.
Et bonjour, Élise Thiébaud.
Bonjour.
Merci de revenir dans Zoom Zoom, malgré tout, à chaque fois. Ça fait plaisir, vous êtes journaliste et essayiste féministe, vous éditez la newsletter écoféministe queer, poétique et politique Nouvelle Lune. Et on vous avait reçu ici même en novembre dernier pour une émission consacrée aux règles. Et si on vous réinvite aujourd'hui, c'est parce que vous avez écrit en 2021 une biographie de Françoise Daubonne, l'intellectuelle féministe qui a inventé ce terme d'écoféminisme. Le livre s'appelle L'Amazone verte, le roman de Françoise Daubonne, c'est aux éditions Charleston. Alors, qu'est-ce que l'écoféminisme? Qu'est-ce que ça implique? Vous l'aurez compris, ma petite intro était un brin caricatural. Cyril Lacarrière, notre rédacteur en chef, n'est pas un vieux poilu pétainiste. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il trouvait que ce sujet un peu compliqué pour nous, car on verra qu'il n'y a pas un, mais 2 écoféminismes. Alors on compte sur vous, Élise, juste le temps de vous présenter mes précieux camarades, 2 journalistes complices et absolument indissociables à l'antenne, sauf bien sûr quand Quentin est au cabinet. Manon Mariani, Quentin, lui, bonjour.
Bonjour.
Bonjour à tous.
Bonjour tout le monde.
À vos côtés, Élise, elle est la preuve vivante que le souci de l'écologie est avant tout féminin. Chaque été, elle veille à choisir le mode de transport le plus éco-responsable et surtout la destination la moins lointaine, car il privilégie les déplacements à vélo. C'est pourquoi l'été dernier, elle était en Corée du Sud et que l'été prochain, elle sera au Mexique. Mais rassurez-vous, une fois sur place à Guadalajara, elle prendra ses nachos sans guacamole parce qu'elle sait que la culture de l'avocat émet beaucoup trop de CO2. En attendant, Manon, vous nous brosserez
avec
le portrait.
Avec un sombrero, toujours.
Ah, toujours, mais on y reviendra. Effectivement, ce sombrero est important pour passer inaperçu parmi les locaux. Hein, c'est votre théorie, en tout cas.
Quelle honte.
Manon, vous nous brosserez le portrait de l'autre personne à suivre si on veut être béton sur l'écoféminisme.
Oui, l'une de ses plus ferventes militantes qui se définit comme une sorcière. Et oui, parce qu'apparemment, elle n'existe pas que dans les dessins animés.
Face à vous, Élise, jeudi dernier, est-ce quelque chose qu'il a mal digéré à la cantine? Ou au contraire, quelque chose qu'il a trop bien digéré? Toujours est-il qu'à 16h04, on l'attendait encore devant le studio, la France l'attendait. Et lui, vous savez où il était, Élise?
C'est l'heure de retrouver toute l'équipe de Zoom Zoom Zen. Salut à tous.
Toute l'équipe ou presque, puisque Quentin est au cabinet.
Salut quand même. Bon,
évidemment, il nous écoute.
On fera jamais mieux.
Quentin, aujourd'hui, vous étiez là dès 15h55. Hein.
Est-ce que vous allez dire la vérité?
Jamais.
C'est pas vraiment mon métier.
En tout cas, dans les phases d'introduction de l'émission.
On n'était pas en direct, c'était une émission enregistrée.
Mais on est toujours en direct. Qu'est-ce que vous racontez, Quentin?
Parce que la France mentait à la France.
Vous étiez quand même pas là.
Vous étiez pas là. Mais vous êtes accroché à ce siège, à ces micros, par peur de les perdre. Moi, j'étais en train d'enregistrer dans la rue.
Avec son micro
en haut. Je n'étais même pas dans les murs.
Très bien. Et donc, sur l'écoféminisme, vous avez quelque chose à raconter?
Oui, j'ai tourné des trucs, on verra ce que ça donne. Vous verrez.
Vous
m'avez démotivé.
Vers 16h30, nous partirons à la découverte de ces sociétés où l'écoféminisme n'est pas, comme chez nous, un simple thème d'émission, mais une réalité. Ces sociétés où ce sont les femmes qui dirigent. Cyril, relevez-vous, on a encore besoin de vous. Pour le D'où ça sort, juste avant 17h, Marine Leonardi, certainement émerveillée par ce qu'elle aura entendu dans le quiz, nous rejoindra toute guillerette. Après 17h, ne manquez pas notre grand débat. Alors qu'une commission d'enquête se réunit en ce moment à l'Assemblée sur ce sujet, on posera la question, faut-il interdire TikTok, en tout cas au moins de 15 ans? Mais d'abord, il est 16h10 sur France Inter, Élise Thiébaud, la lutte féministe et la lutte contre le dérèglement climatique, en quoi c'est la même chose?
C'est pas la même chose, déjà, mais ça a un lien très fort. Pour la première raison, c'est que les femmes sont les premières concernées dans le monde par le dérèglement climatique et les pollutions d'une façon générale, et depuis toujours. Premièrement parce qu'elles ne possèdent pas les terres, hein, elles ne détiennent, je crois, que 10% des terres qui existent. Deuxièmement parce que culturellement, elles sont celles qui s'occupent du vivant, du soin, de la nourriture, de faire en sorte que nous survivions à titre individuel et collectif. Et donc, elles sont les premières observatrices. Des études ont même démontré que quand le dérèglement climatique est très fort ou quand il y a des crises climatiques ou des épidémies très fortes, eh bien, les violences envers les femmes spécifiques, elles sont redoublées.
Mais Cyril, il est vraiment aussi mascu qu'Andrew Tate ou c'est toi qui forces le trait? Me demandait sur Insta quelqu'un ce week-end. Alors oui, en cette 546e émission, je peux vous révéler un petit secret de fabrication. Non, Cyril n'est pas un gros mascu viriliste. À vrai dire, je ne suis même pas sûr qu'il ait voté Fillon en 2017. Si ça se trouve, il a voté Cheminade. Bonjour Cyril.
Bonjour Mathieu Noël, bonjour à toutes, bonjour à tous.
Alors racontez-nous, vous qui êtes quand même plus féministe qu'éco, l'écoféminisme, d'où ça sort?
On a commencé à le dire, c'était une femme française qu'on doit notre sujet du jour, Françoise Daubonne. En 1974, elle publie le livre « Le féminisme ou la mort » aux éditions du Passager clandestin. Livre dans lequel elle affirme que les femmes peuvent et surtout doivent jouer un rôle central dans la lutte contre le dérèglement climatique. Pour la bonne et simple raison qu'elles sont à la fois victimes du patriarcat et de l'industrialisation à marche forcée qui détruit la planète. Je vous lis un passage de la quatrième de couverture de la version rééditée de l'ouvrage. « En faisant du capitalisme patriarcal le dénominateur commun de l'oppression des femmes et de l'exploitation de la planète, Françoise Daubonne offre de nouvelles perspectives au mouvement féministe et à la lutte écologiste. Pour empêcher l'assassinat généralisé du vivant, il n'y a aucune alternative, sinon l'écoféminisme, c'est le féminisme ou la mort. » Fin de citation.
Une notion inventée ici en France, mais qui a évolué depuis.
Oui, en fait, il y a désormais deux principaux courants au sein de l'écoféminisme. Celui dont je viens de vous parler, l'écoféminisme politique, qui prévaut surtout ici en Europe, et un écoféminisme plus qualifié de spirituel, qui fait un lien symbolique entre les femmes et la nature. Cet écoféminisme trouve surtout écho aux États-Unis et en Inde. Il s'incarne à travers l'Indienne Vandana Shiva, l'icône mondiale du développement mondial, deux fois mondiale, et l'écrivaine Starhawk, une américaine que la revue Uzbek Erika présente comme anti-nucléaire, militante féministe, meneuse de cérémonies néo-païennes et qui se revendique elle-même comme une sorcière. Manon Mariani vous en dira plus tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que l'écoféminisme change au féminisme et au combat écologique? Comment concilier les deux? Peut-on ne pas concilier les deux? Pourquoi deux courants différents? C'est ce qu'on va voir durant une heure.
Merci Cyril. Élise Thiébaud, le dénominateur commun, Cyril l'a dit, si j'ai bien compris, c'est le capitalisme patriarcal. Écologie et féminisme.
Pour Françoise Daubonne et pour la majorité des écoféministes, je ne suis pas très certaine qu'il y ait deux courants et qu'ils soient si opposés que ça. Il y a beaucoup plus de glissements, heureusement. Mais en tout cas, le parti pris de Françoise Daubonne quand elle écrit « Le féminisme ou la mort », c'est d'abord une réponse à un livre qui s'appelle « L'utopie ou la mort » qui a été écrit par René Dumont, premier candidat à la présidence de la République sous la bannière de l'écologie. Et elle dit à ce moment-là, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez changer ce que vous voulez, mais tant que les femmes seront opprimées, ça ne changera pas. On est dans une période, hein, les années 70, très imprégnée de marxisme, où grosso modo, ce qu'on dit aux femmes, c'est « bon, quand on aura atteint le socialisme, ça ira pour vous. Là, on s'occupera de vous. » Et ce que dit Françoise Daubonne, c'est « non, inversons les choses. Il faut d'abord... » elle part du principe que l'oppression sexiste et patriarcale, c'est la matrice de toutes les autres dominations, et que si on ne la met pas au centre, ça ne changera strictement rien, et aucune autre révolution ne sera possible.
À l'époque, comment ça se passe avec les mouvements écologistes? Au début des années 70, il y a déjà des mouvements écologistes. Est-ce qu'ils sont conscients de cette porosité, de ce lien très fort entre le féminisme et l'écologie, ou est-ce qu'ils se disent, attention, mélangeons pas tout et n'importe quoi?
Non, pas du tout, ils en ont aucune conscience. La question féministe dans les années 70, elle est encore héritière de Simone de Beauvoir. Elle est très axée sur la contraception, ce sont les combats du moment. Et là, encore une fois, l'écologie comme le féminisme est considérée comme une question relativement périphérique. Mmh. Ce qui est au centre des questions progressistes, c'est la lutte des classes. Mmh. Voilà.
C'est ça qu'on a un peu oublié aujourd'hui. On va en reparler, mais c'est intéressant de voir qu'une époque était imprégnée par la lutte des classes. Et aujourd'hui, on ne raisonne plus selon ces
schémas-là. Les écoféminismes d'aujourd'hui disent que ça va ensemble. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'écoféminisme qui ne prenne pas en compte les questions sociales, les questions racistes et les questions coloniales. C'est ça qui se passe aujourd'hui dans les mouvements écoféministes.
Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël sur France Inter.
Vous êtes féministe, vous êtes écologiste, mais êtes-vous écoféministe? Zoom cet après-midi avec notre invitée, la journaliste et militante féministe Élise Thiébaud, sur cette notion d'écoféminisme. Élise, la définition de l'écoféminisme, c'est faire le parallèle entre les mécanismes de domination et de violence envers les femmes et ceux qui permettent la destruction de la nature. C'est finalement un combat contre le patriarcat. Si on devait reprendre les choses dans l'ordre, on commence par s'attaquer au patriarcat, si on veut sauver la planète et aider les femmes.
C'est tout en même temps. On ne peut pas dire qu'il y a le patriarcat d'un côté et, par exemple, le capitalisme de l'autre, parce que c'est l'extractivisme, le productivisme. On peut effectivement imaginer une forme d'écoféminisme qui veut juste être en amitié avec la nature, ce qui est important. J'aime bien ça, personnellement, marcher dans la terre, mais qui ne questionne pas les rapports fondamentaux de domination. En fait, c'est vraiment l'écoféminisme, c'est une pensée totale de la domination. Dans toutes ces dimensions, de domination sexuelle, genrée, spéciste contre les animaux, contre la nature, et raciste et colonialiste.
Françoise Daubonne, vous lui consacrez un livre, c'est la pionnière de l'écoféminisme. Est-ce que des choses ont été pensées depuis elle, ou elle avait déjà tout pensé en 1974 sur ce que devait être l'écoféminisme?
Ah non, elle était loin d'avoir tout pensé. Elle a vraiment plutôt semé des graines et elle a été très peu comprise à son époque. On pensait que c'était un peu dingo, qu'elle avait des idées intéressantes, mais ça ne parlait pas aux gens sur le moment. Et j'ai rencontré, quand j'ai écrit sa biographie, des féministes de l'époque qui disaient, elle nous disait tout ce qu'on dit aujourd'hui, et nous, on ne la comprenait pas. Même nous, on ne la comprenait pas.
Mais même les gens qui s'intéressaient à ça à l'époque. Oui.
Elle était très visionnaire.
On en parle beaucoup aujourd'hui, en 2025, ce mot 2024-2025, ce mot est un peu partout. Comment la nouvelle génération s'est emparée de ce sujet, justement, depuis Françoise Daubonne et 1974?
Alors, c'est un peu la conjonction de MeToo et des luttes climatiques qui vont tout à coup... tout un travail sur MeToo, sur aussi le genre. Et parce que Françoise Daubonne, elle n'a pas créé que le mot écoféminisme. Elle a été aussi une militante du FAR, le Front Homosexuel d'Action Révolutionnaire, qu'elle a cofondé en 1971. C'était quelqu'un qui avait déjà une vision... pour l'époque, très audacieuse des questions de genre. Voilà, à une époque où, par exemple, au MLF, les lesbiennes disaient qu'elles ne se sentaient pas suffisamment accueillies. Donc, elle, qui était elle-même hétérosexuelle, qui se disait hétérosexuelle synchronique...
C'est quoi ?
Elle avait décidé de n'aimer que des hommes bisexuels. Parce qu'elle considérait qu'ils étaient...
Ça réduit le champ des possibles, quand même.
Ils étaient... Non, bon, pas tant que ça.
Non.
Pas tant que ça. Vous verrez.
Oh, mon Dieu. Attends, je vais apprendre,
Mathieu. J'ai tant à apprendre.
Non, mais c'est... elle avait vraiment une vision où elle considérait qu'un homme qui avait bravé l'assignation à la masculinité qui lui était faite était forcément quelqu'un qui pouvait être un allié du féminisme. Et ça a été une vérité pour elle dans ses amours en plus.
C'est un mot qui doit faire peur parce qu'on associe écologie et féminisme qui sont deux thèmes qui parfois peuvent effrayé, pas effrayé, mais agacé en société quand on arrive avec ce mot-là?
Oui, bien sûr. Ça fait partie. Toutes les grandes idées visionnaires et révolutionnaires connaissent ce chemin. D'abord, elles sont ridiculisées. Mmh. Ensuite, elles sont combattues et argumentées. Et enfin, seulement, elles sont légitimées. Et on a fait ce chemin-là. On a beaucoup, avec le féminisme, ça a été... Et encore là, c'est cool, le féminisme. Moi, je me rappelle, ouais. J'ai 63 ans, je me rappelle comment c'était il y a 20 ans. Mmh. Et franchement, se dire féministe, c'était une... Voilà, moi, j'en pouvais plus, quoi.
S'exposer à des coups, quoi.
C'était s'exposer vraiment... à des sarcasmes, à des discussions, mais pourquoi, mais comment, mais etc.
Les stéréotypes aussi.
Bon, oui, bon, ben ça, les stéréotypes, c'est la routine.
Il y a aussi une dimension pacifiste, évidemment, dans ce combat-là. C'est peut-être lié au contexte de la guerre froide. C'était anti-nucléaire, hein, l'écoféminisme. Il y a une volonté de s'opposer au virilisme de la course aux armes qui prévalait à l'époque. Est-ce qu'on devrait parler d'écoféminopacifisme? Ça va trop loin. Ou le pacifisme, il est inhérent à cette cause?
Alors, il est inhérent dans le sens où la non-violence est vraiment quelque chose de très important dans les combats féministes. Mais il y a eu aussi des écoféministes et des féministes qui ont choisi une action radicale et violente. D'ailleurs, Françoise Daubonne, la première, qui a fait un attentat contre la centrale de Fessenheim, alors en construction, en 1975, et donc qui défendait une logique de la violence. Il faut comprendre que cette génération-là est la génération qui a fait la résistance, qui a résisté à l'ennemi nazi. On ne l'a pas fait, je dis on, comme si j'y avais été, mais je ne suis pas si âgée que ça. On ne le faisait pas de manière non violente. Voilà, on faisait des attentats, on avait des armes, on tuait des gens. C'était ça, la résistance. Et c'était considéré comme parfaitement légitime dès lors que les moyens non violents avaient été employés. Par exemple, à Fessenheim, la population avait vraiment très clairement dit qu'ils étaient, qu'elles et ils, mais c'était surtout des femmes, et à Fessenheim et à Plogoff, qu'elles s'opposaient à la construction de cette centrale, n'avaient pas été écoutées. Pourquoi pas?
On continue de parler d'écoféminisme autour de Françoise Daubonne qui a inventé trois mots qui disent toute sa vie: phallocrate, écoféminisme et sexocide. Trois émissions pour Zoom Zoom Zen, on va les décliner.
Bingo.
Lui, c'est un pacifiste patenté. Il aime les hommes, il aime les femmes, il respecte toute vie humaine, sauf Pierre Courade.
Ah oui,
depuis leur dispute la semaine dernière sur fond d'agisme et d'homophobie dans le groupe WhatsApp de Zoom Zoom Zen, chaque après-midi, c'est donc plein d'entrain.
Et de coiffure, il a attaqué sur les cheveux.
Une question capillaire, c'est vrai que là...
Non, s'il y a un domaine sur lequel il ne doit pas attaquer, c'est celui-ci.
Oh là là, vous êtes tellement des mecs.
Là, c'est dégueulasse, il peut pas répondre. Chaque après-midi, c'est donc plein d'entrain et de tolérance qu'il part vous interroger sur notre mot du jour. Quentin, l'écoféminisme fait-il des adeptes dans la rue?
À l'arrêt du bus numéro 72, devant l'hôtel de ville de Paris, il y a un monde fou. La place est actuellement en travaux. Passent devant moi des vélos cargo en tout genre, des piétons pressés, des touristes qui, eux, prennent leur temps, chacun dans son rythme, finalement. Lui, il a l'air un peu ronchon, mais j'essaie quand même. Bonjour.
Oui, bonjour.
Quel est votre prénom?
Maréchal.
Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui?
Bah, je fais mes courses.
Tout va bien, la vie est belle?
Non.
Allez, super, super, bon début de semaine. Maréchal, nous voilà avec notre thème du jour.
Non mais franchement, qu'est-ce que cela veut dire, l'écoféminisme? Vous avez déjà vu une histoire d'écologie avec une femme? Non, c'est ridicule. Jamais ce genre de problème ne s'est posé que depuis qu'on a quelques individus qui s'occupent de ça. Alors qui s'occupent de ça et qui nous foutent la paix. Est-ce que c'est clair?
C'est
bon, alors là, on arrête parce que je suis prêt. Allez, bonne journée.
Ouais, j'ai cru que j'allais me faire péter la gueule.
Vous dites tout de suite.
Je reprends mon souffle et j'arrête cette étudiante et son amie. Deuxième essai.
L'écoféminisme.
C'est quoi?
Bon, c'est un sujet peut-être un peu tabou, justement. C'est pourquoi je suis vraiment très féministe. Typiquement, les serviettes hygiéniques, c'est pas très écolo.
Ouais, à ce moment précis, je me rends compte que le mot est plus difficile à comprendre que je ne le pensais. Je sors donc la définition.
L'écoféminisme établit un parallèle entre deux types de domination, celle exercée sur la nature et celle exercée sur les femmes. D'accord? Je ne connaissais pas, mais je pense que je vais m'y intéresser davantage.
Ah.
Oui, tu m'as appris un mot. D'habitude, c'est Julien Lepers, enfin à l'époque, mais qui m'apprenait des choses.
On a 100 ans.
Mais merci, Jamy. C'était pas si sorcier.
Ouais, je suis devenu dans la rue un mélange entre Julien Lepers et Jamy Gourmand. Ce qui fait toujours plaisir. Après ce coup de vieux, je fais la connaissance de cette femme qui passe sa main à travers les grilles du chantier de l'esplanade de l'hôtel de ville.
Bonjour.
Vous êtes en train de faire?
Bah écoutez, je prends une photo de l'hôtel de ville avec cette forêt urbaine parce que je trouve ça trop cool en fait.
C'est pas mal, hein?
Bah, j'aime bien, ouais.
Il y a même de la fougère. Bah, je lui ferai découvrir, bah, c'est vrai, bah, passer une tête près du chantier, c'est magnifique. Je lui fais découvrir...
J'aurais préféré que vous, en fait, que vous ayez été au cabinet l'autre jour, finalement, si c'est pour recueillir...
C'est vrai, je lui fais découvrir le mot du jour de Zoom Zoom Zen.
L'écoféminisme, c'est une bonne question. Pour moi, c'est un peu un oxymore, parce que je considère que le féminisme, c'est la plus grande des batailles à mener pour atteindre une égalité réelle, et à partir du moment où... Je reprends les mots de Françoise Héritier. Le jour où on aura atteint cette égalité, on aura gagné tous nos combats.
Dont l'écologie.
Mais évidemment l'écologie, mais plein d'autres trucs. Mais l'écologie, c'est majeur aujourd'hui. Alors, écoféminisme, ok, c'est une formule, c'est un mot, c'est un slogan, on y va. Pour que tout le monde avance, et l'écologie avec.
À une centaine de mètres de là où se trouve l'ancienne mairie du 4e arrondissement, se trouve l'Académie du Climat. Devant l'entrée, un peu surprise par mon micro, France Inter, je tombe sur elle.
Salut.
Bonjour.
Quels sont vos prénoms?
Sarah.
Mélanie.
Qu'est-ce que vous faites dans la vie?
Je suis la directrice de l'Académie du Climat.
Je travaille à la communication de l'Académie du Climat.
Et c'est la pause déj?
Ouais.
On a un quart d'heure pour aller manger.
Eh ben on va empiéter un peu dessus. J'en profite pour leur montrer le mot pas si simple qu'on décortique aujourd'hui.
L'écoféminisme.
J'ai eu du mal ce matin.
Alors je pense que c'est effectivement un niveau assez complexe. Si j'essaye de l'expliquer simplement, c'est de faire des liens entre la place des femmes dans la société et l'écologie, et la planète, et la Terre. La manière dont on va chercher peut-être à dominer notre planète, la manière dont on va chercher aussi à dominer les femmes.
Mélanie m'apprend un chiffre sur l'écoféminisme.
Les femmes ont 14 fois plus de risques de mourir face aux effets du dérèglement climatique. Je te parle dans le monde, hein, dans des métiers souvent plus précaires, et des métiers d'artisanaux, de pêche ou d'agriculture. À cause du réchauffement climatique, si tu veux, les ressources dont elles ont besoin pour produire et effectuer leur travail deviennent limitées, et donc elles gagnent moins d'argent. Et qu'elles sont moins éduquées aussi, dans la plupart du... Voilà.
Alors si on souhaite creuser un peu ce sujet, est-ce qu'on peut venir à l'Académie du Climat échanger ici?
C'est un sujet central. On en parle, on fait des ateliers, on a même des groupes de parole autour de l'écoféminisme, mais parfois on n'utilise pas ce mot un peu théorique où les gens ne savent pas trop ce qu'il y a derrière. Mais par exemple, on travaille avec une journaliste aussi pour les journées du patrimoine, pour faire les journées du matrimoine. Autour des métiers justement de l'agriculture, de la permaculture. Donc on le traite en conférence, on le traite en atelier, on le traite sans dire qu'on parle d'écoféminisme. On a plein de façons de le traiter en fonction des publics auxquels on s'adresse.
Un peu niche, notre mot du jour peut s'avérer complexe à appréhender. Si je me fie aux réactions de celles et ceux que j'ai croisés, c'est une notion qu'on ne connaît pas bien encore. Mais d'un autre côté, l'écologie et le féminisme sont au centre des enjeux de notre époque. Alors même sans le savoir, vous avez forcément déjà dû un peu en discuter.
Élise Thiébaud, vous venez de l'entendre, il en a été jusqu'à arranger un rendez-vous, faire semblant de rencontrer par hasard la directrice de l'Institut du Climat. Quentin a pas mal galéré sur ce mot d'écoféminisme. C'est vrai que les gens disent c'est un peu théorique, c'est un peu niche. Comment vous, qui connaissez bien le dossier, vous pourriez leur expliquer de manière très simple en quoi c'est pas si compliqué que ça finalement, l'écoféminisme?
Eh bien, je ne peux pas le faire parce que précisément... cette simplification à outrance pour faire comprendre tout, c'est un discours de la propagande, c'est un discours de l'efficacité, c'est un discours de la productivité capitaliste, et l'écoféminisme, c'est un discours de la subtilité, de la contradiction, du changement, des cycles, et j'ai aucun moyen de vous expliquer simplement la réalité complexe qu'est notre vie, et la réalité complexe que représente la question de la domination et des dominations aujourd'hui. On est face à une nature extraordinairement complexe. Qui serais-je, pour la simplifier, et à des idées aussi qui sont extrêmement foisonnantes. À l'Académie du Climat, effectivement, moi je connais plein de personnes qui s'inscrivent dans le champ de l'écoféminisme, c'est-à-dire qui analysent cette question-là dans ses fondements ou sa radicalité. L'une d'elles est Fatima Wassak, qui lançait un manifeste antiraciste pour une écologie de la libération. C'est quelqu'un qui est une femme et qui a créé aussi un front de mer qui part de la réalité, des vécus, des corps et des affects pour aborder les questions politiques. J'ai aucune manière de le simplifier davantage.
Il y a quand même votre livre, L'Amazone verte, le roman de Françoise de Beaune. Attention.
Je peux le raconter de manière foisonnante, mais cette exigence de simplification, Je ne dis pas que je refuse, je pense que je ne peux pas et que ce serait prétentieux de m'y essayer.
Les femmes ont 14 fois plus de chances de mourir face au dérèglement climatique, c'est le chiffre que nous donne Mélanie, qui nous parle plutôt des femmes qui produisent, agricultrices, dans des pays peut-être plus exposés aussi au dérèglement climatique. On est peut-être moins concernés aussi directement en France par ça.
Mais on s'en rend moins compte.
On s'en rend moins compte.
Alors, nous sommes toutes et tous des êtres vivants, avec des corps, qui ont besoin de manger, de dormir, de se reproduire, de s'aimer. Tout ce qui se passe, tout notre rapport et toutes nos interconnexions, elles existent. L'écoféminisme, c'est aussi une manière de remettre le corps et le sensible dans nos vies. Ça existe en France, comme ça va exister dans d'autres endroits. Que les niveaux de domination soient différents, de pauvreté, de richesse, soient différents, c'est indéniable. Mais par exemple, le fait que nous vivons beaucoup déconnectés de la nature dans les pays du Nord global, ça a aussi une incidence sur nos ressentis, sur notre santé psychique. Notre intelligence, il y a plein de choses que nous ne savons plus faire aujourd'hui qui passent par des intermédiaires qui sont mécanisés. La façon dont nous sommes soignés, par exemple, dont les corps féminins sont soignés ou pris en compte par les systèmes de santé, est extrêmement défaillant à plein d'égards.
Ça, oui. Ça, c'est un sujet qui nous tient à cœur aussi. Dans Zoom Zoom Zen, on en avait parlé.
Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël, sur France Inter.
Beaucoup de messages ce week-end, les amis, pour me remercier du quiz de mercredi sur les Network States. Vraiment, c'était génial, j'ai tout retenu. Un quiz qui a changé ma vie, tout était si clair, comme quoi on peut être limpide et drôle. Ou encore, bravo pour votre sens de la synthèse, 6 minutes 30, c'était parfait. Même Pierre Courade n'aurait pas fait mieux.
Pierre Courant,
ça c'est autre chose, c'est l'autre soir, à l'issue de sa soirée de vendredi. C'est très gentil, mais remercier directement l'auteur de ce quiz de génie mercredi dernier, Gérald Darnaud, qui a décidément le savoir gay, mais la drogue triste.
Jouons
au Zoom Zoom Test. Il n'est pas avec nous parce qu'il retape sa maison. À la découverte aujourd'hui de ces sociétés où le pouvoir est détenu par les femmes, un peu comme dans un cauchemar de Cyril Lacarrière quand il se réveille en sueur et se précipite sur sa platine vinyle pour mettre...
Oh non.
C'est pas vrai.
Heureusement, dans ces moments-là, Jean-Luc est toujours avec moi.
Oh là là.
Expliquait-il à son psy vendredi dernier. Bref, découvrons ensemble ces communautés qu'on appelle matriarcales. Et notre voyage commence au cœur de l'Inde. Si j'étais indien et que Zoom Zoom Zen n'était pas enregistré à Paris mais à Pipantrie au Rajasthan, le quotidien des chroniqueurs de cette émission serait très différent. Manon par exemple, qui chacun le sait a l'alcool mauvais, serait certainement plus souriante.
J'ai changé,
le vin blanc.
Des lassimangues à la place justement du chablis. Mais surtout, ça n'aurait pas été la même pour vous quand mon fils est né. D'après vous, pour quelle raison?
Votre fils est né?
Quand mon fils est né.
Ah.
Parce qu'à Pipantrie, quand un garçon naît, pour compenser son futur bilan carbone désastreux, les villageois doivent creuser un nouveau puits, sacrifier un vieillard ou planter une centaine d'arbres.
B.
Ah, c'est chaud, non, tu pas les gens.
Ah, je sais pas.
Allez, A.
Ben bah non, et vraiment, on va aller sur d'un écho, d'un écoféminisme
radical,
de combat radical où on n'a pas peur de tuer les
pour
gens pour faire avancer la cause.
On creuse pour avoir
C'était A. Ah, c'est une. Ouais, j'aime bien quand vous prenez ce regard avec pétillant d'intelligence.
Oui.
C'était la réponse C. Alors, réponse C.
Il répète en plus.
Ou presque. J'ai pris quelques libertés. En fait, c'est l'inverse. En 2005, à Pipantrie, capitale indienne de l'écoféminisme, le chef du village décide de lutter contre le triste sort réservé aux jeunes filles, déscolarisées et souvent mariées de force, en instaurant la règle suivante. Pour chaque fille qui naît, les villageois planteront 111 arbres, un nombre considéré comme sacré là-bas, et lui ouvriront un compte bancaire contenant 30 000 roupies qui lui reviendront à cette jeune fille à ses 18 ans. Mais il y a encore mieux que Pipantrie. D'après vous, dans lequel de ces pays, pourtant pas vraiment à la pointe du wokisme, existe-t-il encore...
Il n'y a pas de rapport avec les arbres.
Une société matriarcale.
Qui était censée être la bonne réponse.
Mais si, on plante des arbres, c'est juste pour les... On plante des arbres pour une fille, pas pour un garçon. Et moi j'ai eu un petit garçon.
Ah, savez. Ok.
Voilà, c'était juste une petite astuce. D'après vous, dans quel pays, pourtant pas connu pour son wokisme, existe-t-il encore une société matriarcale à l'heure où nous parlons? La Russie, la Chine ou la Corée du Nord?
Ah. C'est... Non.
C'est moi. Moi, je dis C.
Moi, je dis B.
Vous dites B, et évidemment, on ne vous a pas soufflé en régime, Manon. Pas du tout.
Ah, bah
non,
non,
on aurait dit que vous aviez un temps d'hésitation. C'est la bonne réponse, la Chine. Oui, je vous entraîne au sud-est du pays, dans la région du lac Lugu, à la rencontre des Mozos. Chez les Mozos, la filiation passe par les femmes, ainsi que leur héritage, exactement comme chez les De Breuer. On parle alors de société matrilinéaire, petit cadeau gai savoir pour vos dîners. Mais la thune, c'est que le début. Chez les Mozos, ce n'est pas la femme qui vient vivre chez son mari, c'est le mari qui vient vivre chez la femme.
Ou pas.
Et ce sont les hommes, ou pas d'ailleurs, si choisi, et ce sont les hommes, plus précisément les oncles maternels, qui s'occupent des enfants. Mais les Mozos ont une particularité en plus, laquelle ? Ils pratiquent le tirage au sort sexuel. Ils pratiquent la farandole charnelle. Tout le monde couche avec tout le monde et on élève les enfants tous ensemble. Ou ils pratiquent la visite furtive. La nuit, les hommes se glissent dans le lit des femmes et hop, interdiction d'être là jaloux.
Si.
Oh, est-ce que vous n'auriez pas été bénéficié d'un petit coup de pouce de notre invité ? Mais alors,
non.
Qui a répondu le plus rapidement ? Je ne sais pas, finalement.
Je crois que c'est moi.
C'est Manon, une fois de plus. Fascinant mozo, qui pratique donc la technique de la visite furtive, comme Coura de Carlton de Lille, quand on avait fait la déloc, sauf que là, c'est légal. Enfin, pour finir ce tour d'horizon des sociétés matriarcales, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Direction le Mexique. C'est là que, dans quelques semaines, Manon sera enlevée par des narcotrafiquants du cartel de Sinaloa, malgré ce sombrero.
La dernière fois qu'on a dit un truc, ça s'est arrivé. On dit qu'elle allait avoir un accident de voiture au sud de la France. Elle a eu un accident de voiture.
Non, c'est ça va, c'était minime.
Exactement.
Bon, bref.
Là, je fais comme Courage, je reprends ma phrase en entier, du coup. C'est là que, dans quelques semaines, Manon sera enlevée par les narcotrafiquants, malgré ce sombrero qu'elle a acheté pour, je la cite, passer inaperçu. Oui, cet été, la Marianoche se rendra au Mexique car elle adore le mezcal, que ce soit l'alcool ou Paul. Et si elle
sort
un peu des sentiers battus du tourisme de masse, elle découvrira les Huichols, dans l'état de Jalisco, une communauté écoféministe où les hommes partagent tout avec les femmes. Mais quand je vous dis qu'ils partagent tout, c'est au-delà de ce que vous pouvez imaginer avec vos œillères patriarcales. Puisque partager tout chez les Huichols, ça veut dire que quand une femme meurt, son mari doit se suicider dans l'année pour la rejoindre. Quand les femmes ont leurs règles, les hommes doivent s'entailler le scrotum afin de partager leur douleur. Ou quand une femme accouche, son mari doit se faire ligaturer les baloches pour partager la douleur.
B, les règles.
Bah, ils vont pas se gratter le...
T'entailles dans le...
Bah alors.
Mais ce serait bien
Quentin,
fait.
N'ayez pas peur.
J'ai pas peur.
Soyez moderne, Quentin.
Ça me...
J'ai vraiment l'impression que vous êtes un peu rétrograde.
Comme...
Oui, oui.
venant de vous, c'est pas mal.
C'était la réponse C. Fascinant,
oui, c'est
Huichol.
Moi. C'est moi qui dis.
Lorsque la future mère est au travail, c'est juste pas une réponse
urbaine.
De Quentin. Ah, c'est une légende urbaine. Comment ça?
Ah
non, pas du tout. Pas du tout.
Mais ça ne repose sur rien.
N'achetez pas le livre d'Élise. À mon avis, il est truffé d'erreurs. C'est une info que Gérald Darnaud a dégotée. Je peux vous dire que Gérald est un auteur vraiment attentif à ce qu'il lit. Il vérifie plusieurs fois ses informations.
Alors...
Lorsque la future mère est au travail, le futur papa, lui, est au-dessus d'elle, souvent assis sur une poutre. J'aurais dû me douter que quelque chose clochait. Les testicules attachés à une corde que madame garde à la main. Et à chaque contraction, oui, Quentin, elle tire sur la corde. Heureusement que ma femme a accouché à l'hôpital américain. Vive les Huichos, vive les femmes et victoire de Manon. Ce qui est logique, finalement.
Vous avez pas lu la suite, quoi.
Non, sur la poutre, j'aurais dû me dire. Il fallait vérifier.
Bon. Ça circule partout. Hein.
Ah, ça circule partout, on s'est fait avoir. Ah, quelle honte. En régie, Pierre Courade applaudit. Pas mal ce quiz, mais un peu court. Alors, zoom sur l'écoféminisme cet après-midi. Dans Zoom Zoom, avec la journaliste, je reprends mon souffle, la journaliste Élise Thiébaud. Élise, je devrais dire militante écoféministe. Alors, une fois qu'on a fait une biographie de Françoise Debonne, on est forcément écoféministe. Vous l'êtes?
Je suis pas très intéressée ni, par exemple, le mot militante, je l'aime pas.
Ah ouais.
Je l'utilise pas. Je me considère pas comme militante parce que dans militant il y a militaire. Déjà, je suis pas très fan de militaire et je suis pas très fan non plus d'étiquettes. C'est-à-dire que me définir en permanence par mes convictions ou ce que je suis en train d'écrire m'intéresse pas énormément. Après, je considère aujourd'hui que l'écoféminisme, c'est la pensée la plus fertile du moment.
Mais oui, mais non, et puis surtout, c'est une pensée qui nécessite un combat. Parce que moi, je vous écoute, et effectivement, ça a l'air extrêmement prometteur. Le lien entre les deux, il est logique, il fonctionne bien et tout ça. Mais pour les gens, pour la majorité des gens, pas les spécialistes, bien sûr, c'est toujours un peu... on a l'impression d'accoler deux choses qui ne sont pas forcément liées alors qu'elles le sont.
Alors, je pense que ça mérite plus qu'un combat... plutôt qu'un combat, des pratiques nouvelles. Et c'est ça c'est ce que font la plupart des écoféministes aujourd'hui, de chercher une façon pratique de vivre autrement, de faire face aux effondrements à venir, de créer des solidarités nouvelles. On a une forme d'action écoféministe qui n'a strictement rien à voir avec l'action politique classique.
Mais alors justement, qu'est-ce qu'on a comme exemple concret qui est vraiment écoféministe aujourd'hui ? Quelques actions qui incarnent ce mouvement ?
Alors, par exemple, ce qui se passe dans les zones à défendre ou ce qui s'est passé à Bure, où des collectifs écoféministes ont occupé les lieux, y ont accueilli d'autres personnes, ont essayé de vivre ensemble d'une manière différente. Ça fait partie des formes que prend l'écoféminisme, ou par exemple la pensée d'une personne comme Geneviève Prouvost, qui a écrit un livre qui s'appelle « Quotidien politique » dans lequel elle développe un écoféminisme de subsistance, c'est-à-dire d'essayer de réfléchir de quoi nous avons besoin.
On le voit aussi de plus en plus dans les manifestations pour le climat, on voit beaucoup de slogans, je vous en cite quelques-uns, « Pubis et forêt, arrêtons de tout raser, à défaut de faire jouer les femmes, vous niquez bien la planète, ma planète, ma chatte, sauvons les zones humides », j'aime beaucoup celui-ci. Est-ce que c'est aussi avec ce genre de slogans qui peuvent devenir aussi viraux sur les réseaux, qu'on peut faire bouger les choses?
Pour faire le lien avec Starhawk dont vous allez parler, on considère, et je considère, que les mots sont des sorts. C'est-à-dire qu'il y a un effet performatif du verbe. Même dans la Bible, on vous le dit, hein, commencement était le verbe. On le sait, puisque la propagande, elle repose sur des récits et des mots. Donc ce que fait d'abord, en fait, l'écoféminisme, c'est de reformuler les récits, de reformuler la façon dont nous voulons vivre et de l'expérimenter à partir des racines, à partir de qui nous sommes, de nos corps, qui sont très souvent malmenés ou tout simplement ignorés. Donc là, il y a des modes d'action qui ne sont pas forcément spectaculaires, mais dont l'efficacité, vous verrez, est étonnante.
Quentin ?
Qui incarne l'écoféminisme aujourd'hui ? Est-ce qu'un visage comme Sandrine Rousseau, par exemple, en France, incarne ça ?
C'est la seule personnalité politique qui s'en revendique, qu'elle l'incarne. Heureusement, elle n'est pas la seule à avoir un corps, et donc d'autres personnes l'incarnent aussi. Mais il faut reconnaître qu'elle est la seule à le porter aujourd'hui. Il y a Delphine Batho aussi qui s'en revendique de l'écoféminisme. Et je pense que de plus en plus, la pensée écoféministe se répand. Et peut-être qu'il faut... Je sais bien que c'est l'objet de l'émission, de s'axer sur un mot, mais ce sont des pratiques et des poésies et des liens qui se créent, et plus que des combats.
Vous écoutez France Inter, il est 16h47. L'heure de découvrir, on en parlait juste avant, la personne à suivre, Manon.
Je vous présente Myriam Simos. Elle a 73 ans, elle est américaine et c'est une sorcière.
Plongeons la pomme dans le chaudron pour qu'elle s'imprègne de poison.
Ce n'est pas sous son vrai nom que Myriam Simos s'est fait connaître, mais avec son pseudonyme, on l'a évoqué, Starhawk, qui veut dire faucon étoilé. Elle dit que ce nom lui est apparu dans un rêve. Starhawk est un vrai personnage. Elle est autrice, activiste et donc sorcière revendiquée. Elle se fait connaître dans les années 80 en devenant une figure fondatrice du néopaganisme contemporain et de l'écoféminisme, qui s'inscrit dans une tradition où nature, féminité et magie se rejoignent. En 1979, elle publie The Spiral Dance, un livre devenu culte et une référence dans le monde de la sorcellerie. Elle y célèbre les déesses, les cycles de la nature et appelle à une reconnexion radicale avec le vivant. Le livre est un best-seller. Mais Starhawk n'est pas qu'une simple sorcière écrivaine, c'est une militante à part entière. Elle descend dans la rue pour manifester à la moindre occasion en prônant la non-violence. Elle participe à des actions directes contre le capitalisme et le patriarcat. Elle milite contre les OGM, pour la permaculture et s'engage dans la lutte climatique avec un mot d'ordre, réenchanter le monde pour mieux le défendre. Pour Starhawk, le lien entre l'écologie et les femmes est une évidence. Une fois la nature privatisée, elle devient une simple ressource productive, tandis que les femmes, confinées à la sphère domestique, sont réduites à une fonction reproductive. Les atteintes à l'environnement les affectent directement. Elles pointent notamment le nombre anormalement élevé de fausses couches autour de sites pollués. Depuis des années, elle parcourt le monde pour enseigner enseigner l'action directe non violente, où elle propose des ateliers. Elle continue aussi à écrire des livres très engagés, comme The Fifth Sacred Thing, roman d'anticipation, où elle imagine une société écologique et solidaire face à un pouvoir autoritaire. Et dans cette société, on retrouve principalement des sorcières comme elle. Après tout, j'ai envie de dire, un peu de magie, ça n'a jamais fait de mal à personne.
Merci Manon. Élise Thiébaud, est-ce qu'il n'y a pas une part de mysticisme dans l'écoféminisme qui peut peut-être déranger, en tout cas dans nos sociétés très cartésiennes?
Il y a de la spiritualité, effectivement, dans le mouvement écoféministe. Et il y a aussi un grand matérialisme. Il y a quelque chose qui est important de souligner, c'est que les écoféministes remettent en cause ce qu'on présente comme la rationalité. Hein, une rationalité qui est surplombante et qui vous explique que c'est comme ça de toute éternité. Que les quantités comptent plus que la qualité, que la puissance, que qui est le plus fort est plus important que la diversité. Ça, c'est vraiment une chose qui est centrale dans la pensée écoféministe. Donc, oui, l'idée qu'il y ait de la magie dans la vie fait partie de l'écoféminisme. Et en vérité, il existe aussi une magie patriarcale et capitaliste. Elle est à l'œuvre tous les jours avec la propagande et la publicité.
On oublie que c'est de la magie.
Zoom Zoom Zen. Mathieu Noël sur France Inter.
Il est la moitié de l'homme qu'il était vendredi. On accueille donc Pierre Coux. Un Pierre Coux pas encore remis de cette soirée Eurovision de samedi, non, qui restera comme son Waterloo à lui. Tout avait pourtant si bien commencé. Louane sur le podium après les notes des professionnels. C'est les 1000 euros les mieux employés de ma vie. Plus sûr qu'un livret, a crié Pierre, qui avait effectivement misé gros sur la victoire de la France. Et puis, en quelques secondes, vers minuit moins le quart, tout a basculé. On découvrait que le vote du public n'avait pas suivi celui des professionnels. Louane dégringolait à la 7e place et tous les copains du cornichon étaient obligés de retenir Pierre, qui voulait détruire l'écran géant parce que, je le cite, c'est pas possible, les gens sont aussi cons. Je vous passe les commentaires xénophobes sur les Autrichiens qui, je cite toujours, ferait mieux de pas trop la ramener depuis 45. Oh. Bonjour Pierre Coux.
Bonjour Mathieu. Le pire, c'est que vous n'êtes pas très loin de la vérité.
Oh mon Dieu. C'est terrible. Alors, je sais que le week-end a été dur, mais oui, vous tenez le petit carnet de Zoom Zoom Zen, tout ce qu'on s'est dit sur l'écoféminisme en une minute chrono.
Un week-end difficile, mais pas autant que l'après-midi de Cyril Lacarrière, qui n'en peut plus d'entendre parler de féminisme et d'écologie. Seule la victoire de Bruno Retailleau hier soir lui a permis de supporter cette journée. L'écoféminisme, c'est donc le concept qui est venu nous présenter notre invité Élise Thiébaud. Idée complexe à résumer, d'après notre invité, qui estime même que simplifier cette notion revient à tomber dans la propagande patriarcale. Mais comme c'est mon job, Élise, je me lance quand même. Veuillez m'excuser. L'écoféminisme, c'est donc un mouvement conceptualisé en France dans les années 70 par la philosophe et militante Françoise Daubonne. L'idée est de faire converger les luttes féministes et écologistes, car pour elle, les deux causes sont intrinsèquement liées. L'organisation patriarcale de la société soumet les femmes et la nature dans un même mouvement. La logique est la même, alors autant lutter et pour l'égalité entre les femmes et les hommes et pour le respect de l'environnement, d'autant que les femmes sont les premières concernées par le dérèglement climatique, étant donné que dans pas mal de parties du monde, les femmes s'occupent de la nourriture et du bien-être de la famille. Ainsi, aujourd'hui, le renouveau de l'écoféminisme passe aussi par toute lutte contre le patriarcat, lutte des classes, lutte contre le racisme et le décolonialisme, d'autant que les nouvelles générations sont plus à même de faire converger les luttes, surtout depuis MeToo, et l'urgence climatique n'est même plus sujette à débat. Pour preuve, quelques slogans trouvés dans les manifs pour le climat, pubis et forêts, arrêtons de tout raser, à défaut de faire jouir les femmes, vous niquez bien la planète. Bonne soirée Cyril.
Bonne soirée Pierre.
Bonne soirée à vous. Marine Leonardi, pour vous, ce terme d'écoféminisme sonne comme une promesse de préliminaire.
Et oui, l'écoféminisme, ce mot qui fait pleurer les mecs blancs hétéros dans leur Dacia Sandero. C'est quoi ça encore? Des meufs poilues qui arrêtent de prendre des douches? Déjà qu'on voulait plus descendre à la cave, là, tu dis pas que ça va sentir les égouts maintenant? Ça bouffe du chou kale en lisant Virginie Despentes? Et non, Cyril, c'est plus que ça. Oui, bien sûr, toutes ces phrases ont été prononcées à la machine à café il y a à peine une heure. Café qui est payant, je le rappelle, pas pour des raisons d'écologie ou de féminisme, mais bien parce que les RH de France Inter sont des gros rats. Cyril, il a arrêté il y a deux semaines de traiter les femmes d'hystériques, donc pour lui, bah, ça y est, enfin, je veux dire, le job est fait pour 2025. Merde, c'est quoi les prochaines étapes? Reconnaître l'endométriose et dire qu'on voulait poser proposer notre congé menstruel la semaine prochaine avec Pierre Courade, on va être reçus. Et pourtant, le terme d'écoféminisme date de 1974, mon Cyril, l'année de ta naissance. Je suis sympa, je te rajeunis. Ce terme, on le doit à Françoise Daubonne, on l'a dit, à qui l'on doit aussi le terme de phallocrate, hein, qui sonne à la fois comme un plat de chez Picard et une insulte. Fallova. Et c'est à ce jour ma meilleure blague. Elle explique, Françoise Daubonne, que la société est dominée par le pénis et le cerveau des hommes. Ah non, pardon, elle dit juste pénis d'ailleurs, puisque les deux sont au même endroit. Elle parle même de lapinisme phallocratique, hein, pour évoquer l'obsession qu'ont les hommes pour se reproduire. Après, bon, moi, pour moi, compliqué de traiter mon mec de lapin quand on a mes oreilles. Bah, vraiment, non mais moi, quand j'ai sa carotte dans la bouche, on se demande où est mon clapier. De manière surprenante, oui, vous avez l'image, vous, hein, c'est sympa.
Les enfants qui nous écoutent aussi.
De manière surprenante, l'obsession des hommes pour l'acte copulatoire, je dois faire des périphrases maintenant, justement pour tous les enfants qui nous écoutent. Après, pardon, mais un enfant qui écoute France Inter est avant tout un enfant maltraité. Je disais donc, l'obsession des hommes pour tremper leurs biscuits chocobéennes, vraiment une chronique kids-friendly aujourd'hui, hein, serait due au fait que les femelles de l'espèce humaine sont fertiles comme un cendrier un soir de teuf. Alors là, je dis faux, archi faux, perso, mon mec n'a jamais eu autant envie de moi que depuis que je suis officiellement en préménopause. Alors, je dis officiellement, hein, parce que cette chemise était déjà un gros indice. Qu'il y a quelques années, quand j'étais encore fertile, à chaque fois que je disais à mon mari « j'ovule », c'était la garantie que je ne me faisais pas toucher pendant 2 semaines. Donc autant vous dire qu'à l'époque, j'ovulais tous les jours. Mais bon, il a compris en bout d'un moment la supercherie. Je plaisante, hein, les mecs ne connaissent rien au corps des femmes. Élise Thibault, vous avez écrit 2 livres sur les règles et la ménopause. Et vous êtes également éditrice de Nouvelle Lune, une newsletter écoféministe, queer, poétique et politique. En 4 mots, t'as fait reculer Jordan Bardella. Ah, c'est la gousse d'ail, si c'est seulement. Magnifique, si seulement. Du coup, c'est devenu la description de ma bio Tinder. Genre, tu as Tinder, Léonardi. Bah oui, comment vous pensez que j'ai eu ce job? J'ai matché avec Mathieu Noël. Il avait mis une photo de sa Bentley, flambant neuve. Ah bah, écoféministe, mais vénale, la Léonardi. Mais n'est-ce pas avant tout un acte féministe, finalement, que de dépouiller les mâles blancs avec leur argent? L'écoféminisme est d'autant plus critique que les femmes sont les premières impactées par la crise climatique, on l'a dit également, comme nous l'expliquait Jeanne Burga-Goutal. Et là-dessus, je suis bien d'accord. Très compliqué d'entretenir un brushing quand il fait 40 degrés. C'est sûr que c'est pas les mecs avec leur calvitie qui en ont quelque chose à foutre. Historiquement, les femmes sont donc contre la guerre, contre les inégalités, pour la planète, pour le bon sens finalement, hein. Mais on préfère les tenir éloignées des sphères de pouvoir ou de les moquer, hein, quand Sandrine Rousseau ose faire un parallèle entre crise écologique et obsession masculine pour les barbecues. Alors que, pardon, hein, quiconque a déjà vu un mec retourner pendant 4 heures des chipots, c'est que tu ne peux pas leur confier des ministères. Et pendant ce temps, Trump se fait offrir un avion de 400 millions d'euros par le Qatar. Comme quoi, dans la vie, bah, c'est comme avec les saucisses, il est peut-être temps de privilégier les plus tendres aux durs à cuire.
Merci Marine Leonardi. Et comme on n'a plus du tout le temps, j'ai plus le temps de faire de votre promo, mais tout est sur marineleonardi.com. Beaucoup de spectacles. Merci Élise Thiébaud. Je rappelle votre livre L'Amazone verte. Et pour tout comprendre de l'écoféminisme, des écoféminismes, il y a un livre qui s'appelle comme ça et qui est signé de vous aussi. Merci encore. Zoom Zoom Zen.